Soleil vert, Gwenaëlle Scottet.
Notre rendez-vous chaque mardi avec le développement durable. Bonsoir Gwenaëlle.
Bonsoir Cécile.
On poursuit sur, et on termine même sur le commerce équitable.
Oui, voilà. Maintenant qu'on a vu ce qu'est le principe du commerce équitable et comment ça peut s'appliquer pour les produits locaux, on va revenir sur ce à quoi on pense en premier quand on entend commerce équitable.
Autrement dit, le café, le chocolat, les produits exotiques quoi.
Et oui, bah oui, parce que tout ce qu'on mange ne peut pas être produit en France ou en Europe. On n'a pas le climat qu'il faut. Bon, pour ce qui est des agrumes par exemple, ça va à peu près, mais il y a des cultures qui poussent que dans des climats tropicaux. Avec un maximum d'humidité et de chaleur, et ben ça, on n'a pas. Alors par contre, je vois pas trop, a priori, l'avantage écologique des pays asiatiques, hein, notamment pour la fabrication des vêtements qu'on achète.
Oui, ça, on en parlait la semaine dernière, effectivement, avec Cerise, la mode durable.
Ouais, et là, durable et équitable se rejoignent très facilement. On peut acheter des vêtements qui sont fabriqués en France ou en Europe, où là, on est à peu près sûr de comment les gens se rémunérer. On peut privilégier les films naturels qui sont issus de l'agriculture biologique, et puis surtout, l'occasion. Mais bon, on va revenir à l'agriculture, et on va prendre l'exemple du cacao, ce produit cher à toutes les familles. J'ai ressorti pour ça une étude de marché que j'avais faite pendant mes études, en 2009. Et donc, il faut savoir qu'en 2008, les trois principaux pays producteurs de cacao étaient la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Indonésie. Alors en fait, on a une production mondiale de cacao depuis le 19e siècle et les différents pays producteurs se succèdent depuis, mais ils sont toujours situés autour de l'équateur. C'est seulement à cet endroit qu'on peut avoir les conditions climatiques et écologiques nécessaires. Donc il faut 26 degrés en moyenne, jamais moins de 10. Donc à Nantes, par comparaison, en 2016, on était à 12,7 degrés de moyenne.
Oublions ce chiffre.
Voilà. Une forte humidité, ce qui va empêcher les feuilles de se dessécher trop vite et de tomber. Plus de 1500 mm de pluie par an, répartis de façon régulière tout le long de l'année. Alors à Nantes, pareil, en 2016, on était à 763 mm.
C'est moitié moins et puis c'est pas vraiment réparti de façon régulière, je crois, mais bon.
Il faut aussi une saison sèche courte, c'est-à-dire au maximum 3 mois sans pluie, et un sol qui va être riche en matière organique et neutre en pH. Alors en fait, traditionnellement, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, on va trouver les exploitations dans les forêts. On va déforester une partie au milieu en abattant et en brûlant les arbres. Et ça va faire un gros apport en matière organique qui va donner un vrai avantage à la parcelle pendant des années. Et en plus, ça va permettre de garder de l'ombre autour pour les petites plantes. Et après 5 à 7 ans, ça prend du temps, les branches des arbres vont être suffisamment développées pour faire de l'ombre sur toute la parcelle et empêcher le développement des mauvaises herbes et permettre aussi aux feuilles mortes de tapisser le sol. Et on aura une production maximale au niveau d'une parcelle au bout de 10 à 15 ans. Et après, ça va diminuer. Et puis quand ça ne produit plus assez, on bouge dans la forêt. Bon, et donc, il se trouve en général que les pays où on va trouver le type de climat qu'il faut pour faire pousser du café et du chocolat, hein, c'est à peu près la même chose, ce sont des pays pas super riches. Et on parle souvent pour ces pays de pays du Sud, parce qu'ils se trouvent en fait au Sud des grands ensembles industrialisés et riches que sont l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais en vrai, au Sud, on a aussi des pays riches en plein boom, comme l'Afrique du Sud ou l'Australie. Mais bon, on garde encore le terme pays du Sud.
Oui, ça reste. Et donc, dans le commerce équitable, ça va permettre de s'assurer que les produits qui viennent de ces pays sont achetés à des producteurs qui sont suffisamment rémunérés.
Et oui, et pour ces produits, les organisations de commerce équitable ont mis en place différents labels. Vous trouverez d'ailleurs en ligne un guide international des labels du commerce équitable qui a été mis à jour en 2015. Il est super détaillé et je me suis basée là-dessus. Donc, quand on veut acheter de la qualité, on suit à des labels qui vont garantir un certain nombre de critères. Ça marche pareil pour l'agriculture biologique ou les AOP, les appellations d'origine protégée, ou alors les labels rouges, par exemple. Donc, on a des critères qui sont définis pour le commerce équitable. Ça marche sur d'où ça vient, est-ce qu'on est en agriculture biologique ou pas. Il faut une responsabilité sociétale de l'entreprise, le type d'organisation de la production, une inspection de la filière et une certaine traçabilité. Et on a un organisme qui va certifier que le produit répond bien à ces critères. Et ça peut être interne ou externe au label qui est donné. On a par exemple le label contrôlé équitable par EcoCert, qui est donné par l'organisme EcoCert, qui est aussi un organisme certificateur de l'agriculture biologique en France et en Europe. Et eux, ils sont surtout présents en Europe et en Afrique. On a aussi le premier label qui a été lancé en 88, c'est Fairtrade Max Havelaar, qui est décerné par le FLO CERT, qui est un organisme international, et lui, on le trouve sur des produits qui viennent surtout d'Amérique du Sud, du Caraïbe, Afrique et Moyen-Orient. Et il y en a plusieurs autres qui sont détaillés dans le document que je vous mettrai avec le podcast.
Oui, c'est important, ça permet aussi de creuser. Qu'est-ce qu'il en est des labels de développement durable ?
Oui, donc il existe aussi des labels dits de développement durable qu'il ne faut pas confondre avec les labels de commerce équitable. On a par exemple le label Rainforest Alliance, qui a une petite grenouille verte comme logo qu'on voit souvent. Donc ce label, il va garantir une traçabilité, le respect des conventions de l'Organisation internationale du travail, certains avantages sociaux additionnels, des mesures en faveur des producteurs marginalisés, un appui aux producteurs, le renforcement des droits des peuples autochtones, la réduction des impacts environnementaux des activités, une certaine protection de la biodiversité et l'interdiction des produits dangereux et des OGM. Mais il ne garantit rien en matière de rémunération, de financement et de durabilité de l'engagement, ce qui sont des mesures indispensables pour le commerce équitable. Donc pour conclure, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites sur les impacts économiques, sociaux, organisationnels et environnementaux des labels du commerce équitable. Tout ça est carrément positif, mais en fait, le champ d'études est vraiment très restreint. On a un petit nombre de produits agricoles emblématiques qui ont été étudiés, comme le café, et c'est surtout en Amérique du Sud. Donc, il y a encore pas mal de boulot pour les chercheurs, mais dans le doute, acheter équitable, c'est plutôt acheter durable.
Oui, on peut penser que c'est quand même plutôt positif. Merci beaucoup, Gwenaëlle. On retrouve bien entendu tout ça, comme tu l'as dit, via le podcast sur le sonunique.com ou encore sur l'appli MySun. Rendez-vous mardi.
À mardi.